En direct du premier étage de la Tour Eiffel, il est 8h sur Europe 1.
Le problème du développement de la 5G, c'est que ça nous jette dans une fuite en avant au niveau de ces émissions. On n'arrive pas à réduire les émissions du numérique aujourd'hui.
Nous sommes tous des amis de la Terre.
Nous sommes tous des amiches de la Terre, scandait hier des écologistes, bougies en main devant l'Elysée. Alors la 5G, est-ce inévitable pour éviter un déclassement technologique de la France, comme le sous-entend Emmanuel Macron? Le débat et les arguments dont on dispose aujourd'hui, c'est dans une seconde. Autre défi pour la planète, la consommation des masques, là aussi à très haut débit, nous verrons comment les recycler. Dans ce journal, le scandale des labos qui font payer plus cher pour dépister certains patients plus pressés, les nouveaux accords entre Israël et certains de ses voisins avec Donald Trump qui se voit en artisan de la paix. Et puis 20 ans de théâtre avant de connaître le succès télévisuel dans 10%, l'or qu'elle a mis désormais nouvelle figure du cinéma français.
La relance de l'économie et les investissements verts, le monde d'après, la 5G et les amiches à 8h15. Sonia Mabrouk reçoit Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Très bon réveil à toutes et à tous. Europe Matin, il est 8h01.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La 5G, est-ce la querelle des anciens contre les modernes que l'on aurait rejoué sur l'écran d'un smartphone? Peut-être déploiera-t-elle ses antennes un jour en haut de la Tour Eiffel? On en a entendu en tout cas des arguments parfois caricaturaux pour ou contre la 5G. Il s'agit de pouvoir regarder du porno même dans un ascenseur, disait le maire de Grenoble quand Emmanuel Macron renvoyait les anti-5G à l'époque de la lampe à huile.
Bonjour Clément Lesaffre.
Bonjour.
Spécialiste tech d'Europe 1, on a besoin de vos lumières ce matin. Quand on dit 5G, de quoi est-ce qu'on parle?
Eh bien, c'est la prochaine génération de réseaux de communication mobile. Ce n'est pas une révolution, mais pour faire simple, c'est une 4G++. Avec la 5G, on aura un débit 10 fois plus puissant qu'en 4G. Alors, au lieu d'attendre une heure pour télécharger un film en HD, il suffira de quelques minutes seulement. Pour déployer la 5G, il faudra installer de nouvelles antennes plus puissantes et plus précises. Et pour en bénéficier, il faudra aussi de notre côté un téléphone adapté, capable d'absorber les gros flux de données.
Alors l'argument d'Emmanuel Macron, c'est que sans la 5G, on reste donc comme des amiches, hein, cette communauté américaine qui refuse le progrès technologique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on en a besoin pour rester compétitif?
Il y a clairement un enjeu industriel. Les usines automatisées, les voitures autonomes, la télémédecine, tout ça c'est l'avenir, mais ça ne marchera pas sans la 5G. D'autant plus que les réseaux 4G, eux, vont saturer d'ici 2 ans. Et pour cause, le trafic de données a été multiplié par 10 sur les 5 dernières années. Mais la France est en retard alors que nous en sommes encore au stade de l'expérimentation. En Corée du Sud, aux États-Unis, en Chine et même dans 12 pays d'Europe, la 5G est déjà une réalité pour des millions de gens. À Bercy, le mot d'ordre est donc clair. On arrête de tergiverser et on fonce. Les enchères pour attribuer les fréquences 5G aux opérateurs auront donc lieu à la fin du mois.
Et la santé alors? Est-ce qu'il y a un risque pour notre santé à cause des ondes 5G?
C'est le point sensible du débat. Aujourd'hui, en 4G, le niveau médian d'exposition aux ondes en France est 150 fois inférieur au plafond fixé par la loi. Pas de danger donc, mais les opposants craignent que cela augmente avec la 5G. Un rapport remis au gouvernement hier pose un premier jalon. En s'appuyant sur des études menées dans les pays qui ont déjà franchi le cap, il conclut que l'exposition aux ondes 5G ne présente pas de risque pour la santé. Pas de raison de s'inquiéter donc, du moins dans l'immédiat, car au début, la 5G va passer par des fréquences déjà utilisées par la télévision ou le Wi-Fi. On les connaît bien et aucun incident sanitaire n'a jamais été signalé. Mais à partir de 2024, la 5G va passer sur des fréquences plus élevées. Et là, le rapport le reconnaît, on manque de données scientifiques. Des études complémentaires, notamment de l'Agence de sécurité sanitaire, sont en cours à ce sujet. Mais les conclusions ne seront rendues que dans plusieurs mois et le gouvernement ne veut pas attendre aussi longtemps. Hors de question de faire un moratoire, dit-on à Bercy. On a déjà pris suffisamment de retard.
Enquête Europe 1, signé Clément Lesaffre.
Pas de 5G tout de suite chez Apple, pas de nouvel iPhone dévoilé hier comme c'est pourtant l'habitude chaque année en septembre. La marque a surtout parlé de sa nouvelle montre très orientée santé puisqu'elle est censée mesurer en quelques secondes le taux d'oxygène dans votre sang. La santé avec 8000 nouveaux cas de Covid recensés hier en France, 117 admissions en réanimation, ça augmente. Et une partie des cours suspendus à la fac de médecine de Montpellier après une soixantaine de cas positifs chez des étudiants. Ils avaient été à une soirée où les futurs docteurs n'avaient visiblement pas appliquer leurs cours à la lettre.
Et vous entendiez ce matin dans le journal de 7h cette enquête édifiante d'Europe 1 sur certains laboratoires d'analyse prêts à donner la priorité aux patients qui payent plus que les autres. Le reportage de Victor Delande est à retrouver sur europe1.fr.
Et ces révélations révoltent François Blanchecotte, c'est le président du syndicat national des biologistes.
C'est mon écœurement. D'abord parce qu'on s'est battu effectivement pour que ce test puisse être à disposition de tous les Français, qu'il ne soit pas à leur charge et qu'il soit pris à 100% par la Sécurité sociale. C'est un engagement que la profession a pris. Aujourd'hui, ne serait-ce que du point de vue réglementaire, juridique, du point de vue éthique, on ne peut pas facturer et prendre de l'argent aux Français en plus du prix remboursé par la Sécurité sociale. Au-delà de ça, ne serait-ce que pour un motif de priorisation, quel qu'il soit. Il n'y a pas de raison valable aujourd'hui qu'on puisse se faire de l'argent sur les dos des Français simplement pour rendre un résultat plus rapide. J'espère que ça restera un cas isolé. En tout cas, il sera nécessaire qu'on puisse régler ça auprès des conseils de l'ordre ou de la DGCCRF si c'est nécessaire.
Les tests qui étaient une denrée rare au cœur du confinement, tout comme les masques d'ailleurs. Des dizaines de millions de masques sont utilisés chaque jour en France aujourd'hui.
La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui sera l'invitée de Sonia Mabrouk dans 10 minutes, même pas, ici même sur Europe 1, elle appelle à l'utilisation de masques en tissu. Il faut dire que les masques jetables risquent de se transformer en véritable cauchemar pour l'environnement.
Ils contiennent du plastique, du métal qui ne se recycle pas ou difficilement, car vous allez l'entendre avec ce reportage de Roman Hockey, très peu d'entreprises se sont mises sur ce créneau.
On doit être aux alentours de 500 demandes, 600 demandes par jour. Donc il y a un vrai attendu pour avoir une filière de recyclage.
Pourtant, l'entreprise d'Olivier Civil est presque seule sur le marché. Impossible pour la PME d'absorber toutes les demandes, des particuliers, des collectivités et même des entreprises du CAC 40 à court d'idées pour recycler leurs millions de masques usagés.
On reçoit des demandes des quatre coins de la France. Première piste, c'est de dupliquer en fait notre modèle au niveau d'autres territoires, soit des départements, soit des régions. On réfléchit à un développement de cette activité au niveau national, éventuellement.
Mais il y a un obstacle, comment collecter tous les masques jetables sur le territoire? Pour l'instant, aucun ramassage dédié, ces déchets en plastique passent par l'incinérateur. Dans cette autre société, Arnaud Marie s'interroge aussi sur les débouchés de ces masques recyclés.
Vu les quantités que ça représente, que faisons-nous de la matière que nous allons récupérer? Je sais pas, du mobilier urbain, des panneaux, j'en sais rien, c'est à penser. Il faudra que les autorités participent, évidemment.
Une demande balayée par le ministère de la Transition écologique, lui privilégie le masque en tissu. D'ailleurs, pourquoi restructurer toute une filière, admet un conseiller, alors que d'ici quelques mois, on ne portera peut-être plus de masques.
L'écologie encore avec le tournant vert que veut prendre le parti Les Républicains. Ce week-end, ils lancent un tour de France de l'environnement. Une task force également doit travailler dès ce matin. Aurélie Herbemont, la droite avait fini par délaisser un peu ce thème qui revient en force en vue de la présidentielle.
Chez LR, on aime rappeler le discours de Jacques Chirac en 2002 sur la maison qui brûle ou encore le Grenelle lancé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Sauf que depuis, la droite avait plutôt basculé du côté l'environnement. Ça commence à bien faire. Pour Damien Abad, patron des députés, il y a urgence à faire rimer vert et LR.
C'est important que, à nouveau, on montre qu'on peut être de droite et défendre une cause écologique majeure et considérer même que le projet politique de droite, sa colonne vertébrale et son fil rouge, ça doit être la question environnementale. Et certainement qu'on a pris du retard. Moi, je dis, il vaut mieux tard que jamais.
Les écologistes devant la droite aux européennes et la vague verte aux municipales ne sont sans doute pas pour rien dans cette reconversion. Le numéro 3 du parti, Aurélien Pradier, voit d'ailleurs dans les polémiques sur le Tour de France ou les sapins de Noël avec les maires de Lyon et Bordeaux, l'opportunité de tracer un chemin pour LR.
Les Français sont en train de mesurer à quel point il y a ici ou là des dingos de l'écologie. Je refuse qu'on laisse ce sujet essentiel à des extrémistes et je pense que la droite a quelque chose de responsable à dire sur ces sujets.
La droite va donc chercher des idées ces prochains mois. Christian Jacob le promet, on est plus écolo qu'on le pense.
Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. C'est ainsi que Donald Trump salue sa victoire diplomatique des accords entre Israël et ses voisins. Nous serons à Washington.
Et nous serons au cinéma dans les Cévennes avec Antoinette, nouveau personnage truculent pour la talentueuse Laure Calamy.
8h09, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Un nouveau Premier ministre au Japon, Yoshihide Suga, élu cette nuit par le Parlement. Il prend la suite de Shinzo Abe, qui avait démissionné pour raison de santé. Aux États-Unis, la scène en rappelle d'autres. Washington, la Maison Blanche et un accord signé entre Israël et certains de ses ennemis d'hier. C'était cette fois sous l'égide de Donald Trump, avec Benjamin Netanyahou et les dirigeants des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn. Sonia Dridi, vous étiez sur place pour Europe 1.
Pour célébrer sa victoire diplomatique, Donald Trump a organisé une cérémonie en grande pompe comme il les aime, ravi de se poser en faiseur de paix à quelques semaines de l'élection présidentielle.
Nous sommes ici aujourd'hui pour changer le cours de l'histoire. Après des décennies de divisions et de conflits, nous sommes témoins de l'aube d'un nouveau Moyen-Orient grâce au grand courage des dirigeants de ces trois pays.
Le président américain assure que 7 ou 8 autres pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, sont prêts à conclure bientôt des accords de normalisation de leurs relations avec Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a couvert d'éloges son ami Donald Trump. Quant au ministre émirati des Affaires étrangères, il a remercié Netanyahou pour avoir stoppé l'annexion de territoires palestiniens, sauf que ce dernier assure que ce n'est qu'un report. Cet accord est aussi un pied de nez à l'Iran, ennemi commun de ses nouveaux pays alliés. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
La suite du feuilleton Suez que le groupe Veolia cherche à racheter. Il y a quelques minutes, Suez annonce négocier pour céder ses activités recyclage au groupe Schwartz pour 1,1 milliard d'euros.
Le cinéma en ce mercredi avec cette figure ultra attachante de la série 10%, Laure Calamy, actrice désormais de plus en plus sollicitée sur le grand écran.
Oui, Mathieu Charrier, si on aimait déjà Laure Calamy, on va l'adorer aujourd'hui dans Antoinette dans les Cévennes.
Laure Calamy est bien loin du personnage de Noémie, cette secrétaire prête à tout pour séduire son patron dans la série 10%.
Je vois bien comment il me regarde.
Car si elle dégage la même légèreté, le même brin de folie en apparence, l'actrice avoue être une grande angoissée, formée au Conservatoire d'art dramatique. Elle a fait carrière au théâtre pendant 20 ans avant de connaître cette popularité soudaine grâce à la télévision.
Comme les Rochefort, Marielle, tout ça qui avaient eu des parcours de théâtre, ils se sont construits, on a le temps de se construire. Mais voilà, et je trouve que là c'est possible parce que d'abord il y a de plus en plus de femmes qui écrivent des vrais premiers rôles féminins.
Et dans ce film, Antoinette dans les Cévennes, Laure Calamy joue de nouveau avec son sens du burlesque et du ridicule. En randonneuse désespérée à la poursuite de son amant parti en vacances en famille dans les Cévennes, son seul compagnon sur les chemins escarpés, un âne qui va devenir son confident.
Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde ! J'aime le ridicule, j'aime le clown dans ce qu'il a de ridicule, mais de tragique en fait aussi.
À 45 ans, déjà nommé une fois au César, Laure Calamy enchaîne désormais les rôles au cinéma. On la verra notamment bientôt dans le premier film comme réalisateur d'une autre figure popularisée par 10%, Nicolas Maury, qui joue l'assistant Hervé et signe Garçon Chiffon en salle fin octobre.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1.
Merci beaucoup. C'était le journal de 8h avec François Geffrier. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.